On a fait notre vie, maintenant on fait la tienne. Et je m'en suis très bien porté.
Alors, les enfants des années 60 devaient quand même faire beaucoup fonctionner leur imaginaire, parce qu'ils n'avaient ni DVD, ni tablette, ni ordinateur. Vous avez donc découvert le monde compulsivement à travers les bouquins.
Alors, moi, j'ai commencé à lire parce que mes parents avaient une maison de campagne dans laquelle je m'ennuyais effroyablement. Et donc, j'ai lu comme un dingue. Effectivement, vous avez raison. Il y aurait eu Internet, etc. J'aurais peut-être jamais lu un livre. Et ensuite, je me suis mis à aller au cinéma et j'ai découvert la vie au cinéma. Puis ensuite, la grande littérature. Ça ouais. aussi, c'était comme une sorte de catalogue ouais. de toutes les expériences que j'allais pouvoir vivre en grandissant.
Et oui, puisque vous dites d'ailleurs que, en fait, les grands écrivains sont des coachs de vie absolument
Mais
formidables.
Oui, ils nous racontent tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut penser, tout ce qu'on peut. C'est absolument extraordinaire. Moi, j'ai lu les grands romans, comme j'ai vu les grands films, avec l'impression de feuilleter un catalogue de l'avenir. J'allais pouvoir vivre tout ça. Et y a certains trucs aujourd'hui encore. À l'âge que j'ai jamais réussi à faire de la prison, par exemple. J'ai essayé pendant mon service militaire, c'était impossible. Et je voulais savoir ce que ça faisait quand on referme la porte derrière vous, tout à coup vous vous retrouvez
oui,
enfermé entre
le métal qui résonne et on passe pas de l'autre
murs,
côté.
Je l'ai tellement lu dans les livres, je l'ai tellement vu au cinéma, je veux connaître ça. Alors j'espère que ce sera pas dans des conditions trop horribles, mais un rayon de connaissance me suffisant.
Alors je reste un moment sur l'enfance, Frédéric Taddeï, parce que bien sûr, bon, cette passion pour les bouquins, mais vous trouviez sans aucun intérêt les livres pour enfants. Vous aviez quel âge quand vous avez lu Le Passe-Muraille de Marcel Aimé et Papillon. Le Passe-Muraille à 8 ans.
8 ans, ouais.
Et Papillon de Henri Charrière.
Papillon, non, j'étais un peu plus âgé parce que je ne l'ai pas lu. 10. Je me souviens de mon père le lire quand j'avais 8 ans. Ouais. Il est sorti en 69, j'avais 8 ans. Et j'ai lu de le lire quand il est arrivé en poche, 2 ou 3 ans plus tard.
Voilà, à 10 ans.
Oui, ça a 10
Formidable.
Ans.
Formidable. Mais est-ce qu'adolescent, vous vous êtes dit qu'une vie d'écrivain vous conviendrait bien?
Non, adolescent, je voulais être cinéaste. Et puis après, j'ai arrêté d'aller au cinéma parce que j'ai l'impression d'en avoir fait le tour. Et je me suis donc plutôt plongé dans la littérature. Là, je me suis dit que j'allais devenir écrivain. Et j'ai cru que je deviendrais écrivain jusqu'à l'âge de 25 ans où j'ai dû me résoudre à l'idée que je ne serais jamais un grand écrivain et que donc ça ne valait pas la peine.
Alors, je suis fidèlement la chronologie. Pendant 10 ans, après le bac, vous avez expérimenter, j'ai envie de dire, une vie tanguy, c'est-à-dire une vie de glandeur lettré, habitant chez ses parents et s'inscrivant chaque année, paraît-il, en première année, dans une fac différente, oui, juste pour avoir la sécurité sociale.
Seulement les 5 premières années, parce que on avait...
Ah oui, il y a un nombre d'inscriptions possibles qu'on ne peut
déjà,
pas dépasser.
En fait, normalement, c'était 3, moi j'ai réussi à arriver à 5. Mais après, ça s'est arrêté.
Et alors, vous choisissiez chaque fois, donc, une fac différente, un cursus différent
à chaque fois.
Pour avoir la sécurité.
Franchement, j'y allais au tout début comme ça, histoire de repérer qui y avait dans l'amphi, et puis jamais j'y suis retourné au-delà de Noël. Mais non, ça m'intéressait pas. J'avais dit à mon père que je serais un grand écrivain, riche et célèbre à 25
D'accord,
ans.
D'accord, mais votre père, quand même, ça, certainement, il croyait en son fils, mais tout de même, il n'y avait pas un petit fond d'inquiétude comme
mais
ça
non,
qui surnageait parfois.
Non, ils ont fini par demander, mais mes copains qui me connaissent depuis très longtemps ont fini par demander à mes parents, mais vous n'êtes jamais inquiété, parce qu'effectivement, alors j'habitais plus chez eux, il ne faut pas exagérer non plus. Je suis parti de chez mes parents au bout d'un moment, j'ai emménagé avec un de mes amis qui venait d'hériter l'appartement de sa grand-mère.
Et donc c'était pratique, pas de loyer.
Voilà, pas de loyer, on était très bien. Mais c'est vrai qu'à 28 ans, je n'avais pas de diplôme, je n'avais pas fait d'études, je n'avais jamais travaillé. Et moi-même, je commençais un peu à m'inquiéter. Donc mes copains ont demandé si c'était le cas de mes parents et qui ont répondu pas du tout, jusqu'au dernier moment. On a toujours pensé qu'ils s'en sortiraient très bien. Et effectivement, à 29 ans, j'ai créé un magazine, ça a bien marché.
En tout cas, le temps que vous n'avez pas passé dans les amphis, vous l'avez passé exclusivement à lire, et ce bagage intellectuel, cette culture générale vibrionnante, j'ai envie de dire qu'aucune école de journalisme n'aurait pu vous l'offrir.
Sans doute pas, c'est mes universités à moi, mais j'ai pas fait que lire. J'ai été dans les musées, je me suis intéressé à la peinture, je me suis intéressé à la vie, puis j'ai vécu aussi. Parce que c'est quand même ça très important, il faut vivre. J'ai lu beaucoup de livres et j'en lis encore beaucoup. Mais quelqu'un qui ne ferait que lire, moi, m'ennuierait à périr. Hein. Donc j'ai beaucoup vécu, je suis sorti beaucoup, j'ai beaucoup voyagé.
Il a expérimenté.
voilà.
Mais les manuscrits, par par exemple, des romans que vous avez noircis jusqu'à l'âge de 25 ans, vous en avez fait quoi, Frédéric Tadié?
Je ne sais pas, ils doivent être quelque part. Je ne les ai jamais envoyés à aucun éditeur.
Et oui.
Je ne sais pas où ils sont. Ils doivent être, je ne sais pas, dans une caisse quelque part, un carton.
Mais alors, vous ne les avez pas envoyés à des maisons d'édition parce que vous dites que vous avez réalisé que vous aviez une prose qui n'égalerait jamais celle des écrivains que vous admiriez. Mais
exactement.
Alors, c'est une douleur de quelle nature
Non, c'est pas. Enfin, c'est un peu embêtant, mais c'est pas une douleur non plus. À ce moment-là, on se dit bon ben maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Alors au début, je savais pas trop. Enfin, forcément, comme vous avez beaucoup écrit, vous savez que vous êtes pas trop mauvais quand même. Et donc l'idée de créer un magazine, de travailler dans la presse, m'est venue assez vite. Ce que j'ai réalisé à 29 ans, mais parce que je connaissais personne dans la presse, donc tout à coup, à un moment, ça m'a pris. Je me suis dit, allez, maintenant, il faut y aller. Et puis la télévision, c'est arrivé après. Je sentais que la télévision commençait à me tourner un peu autour. Et puis, ça, je me disais, tiens, la télé, c'est pas mal parce que autant c'est difficile d'être un grand écrivain, un grand cinéaste. Vous êtes en rivalité quand même avec des gens très importants.
Et pas seulement contemporains. Vous êtes en rivalité avec toute l'histoire de la littérature internationale.
Et il n'y a pas d'intérêt à mes yeux que d'écrire un roman qui ne voudrait pas être aussi bon que ces romans-là. Donc, mais en revanche, quand vous vous intéressez à la télévision, tout à coup, quand l'opportunité se fait, vous dites, ah, la télévision, quand même, ah, on peut peut-être encore avoir sa place dans l'histoire de la télé. Il n'y a pas tant de géants que ça. Et alors, c'est ce que j'ai fait.
Voilà. Alors, si je résume, effectivement, vous êtes tourné, tournant le dos à la littérature, vers un journalisme élitiste, dans un premier temps vraiment dans la marge avec Jean-François Bizot qui relançait le magazine Culte Actuel, voilà, le fer de lance de la contre-culture, puis Canal, puis des émissions de Noctambule, Paris Première, Dardard sur France 2, alors Ce soir ou jamais, magnifique sur le service public qui pendant 10 ans, voilà, a agité les beaux esprits, et puis a écarté la bien-pensance des plateaux de télé. Et aujourd'hui, vous dirigez l'hebdomadaire Marianne.
Oui,
dois-je vous appeler Monsieur le Président?
Non, ou, directeur.
Monsieur le directeur.
Et pas attention, j'ai une directrice de la rédaction, il y a une directrice de la publication, il y a des directeurs adjoints, etc. Moi, je suis le directeur tout court, comme Jean-François Kahn.
Oui, mais qui est au-dessus de tout le monde.
Oui, c'est ça, c'est bien, c'est à la limite. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'au fond, mais oui, mais moi, mon domaine de responsabilité, il est où ? Tout le monde a des responsabilités,
certes,
moi, je ne sais pas lesquelles.
Vous êtes le meneur d'hommes.
Oui, vous vous dites que vous tracez le cap. Je sais pas, vous vous dites n'importe quoi. En tout cas, c'est très agréable. Et puis surtout, j'aime beaucoup l'idée de revenir dans la presse à mon âge aujourd'hui, alors que j'ai commencé dans la presse. Et d'y revenir aujourd'hui, de vivre les conseils de rédaction, etc., c'est très, très agréable, très plaisant. Et ça renouvelle, là aussi, alors ça va dans le sens de votre émission, il y a plusieurs vies dans la vie.
Voilà.
Mais ça va dans le sens des Burst des Books aussi.
Voilà.
C'est-à-dire que vous apercevez que, d'abord, il peut vous arriver des choses nouvelles, quel que soit votre âge, auxquelles vous attendez pas, parce que vraiment, je m'y attendais pas.
Ouais.
Et que vous pouvez vous renouveler, tout est possible, il n'y a pas d'âge décisif, quoi.
C'est ça, c'est formidable.
Europe 1, 17h-18h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Directeur d'un hebdomadaire comme Marianne, bah sans doute Frédéric Tadié n'avait jamais osé l'envisager. Désormais, celui que les auditeurs d'Europe 1 suivent chaque week-end dans C'est arrivé cette semaine et C'est arrivé demain, les samedis et dimanches de 9h à 10h, eh bien Frédéric Tadié donc nous donne rendez-vous par voie de presse, en kiosque ou en ligne, avec Marianne. Cher Frédéric, Jean-François Kahn, qui a créé en 1997 cet hebdomadaire, donc Marianne, disait avec lyrisme que Marianne était un journal symphonique car il réunissait des personnalités, des caractères, des tempéraments qui peut-être n'auraient jamais pu se croiser, mais qui travaillaient ensemble avec la même curiosité. Alors cet éclectisme, bien sûr, j'imagine qu'il n'est pas pour vous déplaire, mais quand même, diriger un journal, vous nous avez dit à l'instant que vous n'y attendiez pas du tout, mais peut-être que vous en rêviez quand même.
Non, j'en rêvais pas, je m'y attendais pas, mais dès l'instant où la proposition m'a été faite, j'ai demandé juste 2 heures pour y réfléchir, et tout de suite je me suis dit que ça m'allait comme un gant. Si vous voulez. Alors ça m'allait comme un gant aussi parce que s'il s'agissait de Marianne, qui est un magazine plutôt inclassable, qui n'est pas identifié strictement, et ça m'allait bien, oui.
Voilà. Alors c'est en décembre dernier, effectivement, évidemment que Denis Oliven, président du conseil de surveillance de CMI France, a officiellement déclaré Frédéric Taddeï, agitateur culturel reconnu, voilà, et dont la nomination est approuvée par Jean-François Cab, le fondateur, va apporter son originalité, son goût du pluralisme et son amour du débat dans les rédactions de Marianne. Alors me vient une réflexion. Depuis toujours, Frédéric, vous menez avec art des débats en ne dévoilant jamais vos opinions, en restant vraiment indéchiffrable. Or là, en dirigeant Marianne, par les angles, les axes, les titres, la ligne éditoriale que vous allez choisir, forcément, vous allez vous révéler.
Non, une ligne éditoriale, c'est pour ainsi dire une discipline que vous incitez...
Que vous épousez.
Que vous incitez les journalistes à adopter. Et c'est d'ailleurs une discipline qui a longtemps été celle, qui a presque, oui, toujours été celle de Marianne, en fait. Moi, je vois ça, mon cap, c'est un cap éditorial. C'est pas un cap politique, par exemple. Après, à l'intérieur de Marianne, il y a des sensibilités différentes qui s'expriment, plus ou moins, de façon plus ou moins virulente, si vous voulez. Mais c'est aussi ce qui fait le charme de ce magazine. Pour moi, Marianne, c'est le lieu du débat.
Parce que Marianne, en fait, c'est un magazine opposé aux extrémistes, hostile au populisme, critique mais pas anti-système. Ça laisse un champ des possibles quand même assez vaste.
Oui, et puis tout ce que vous dites là, même, on pourrait dire qu'il y a sûrement des exceptions. oui, c'est. Moi, j'aime beaucoup l'idée que c'est le lieu du débat. Voilà, et ça n'empêche pas que Marianne a des partis pris, que Marianne fait des choix, ça me convient très bien, mais pour moi, l'opinion de chaque journaliste, très bien, je la respecte.
Mais Marianne fait des choix et pas nous choisissons.
Mais j'aimerais autant que ce soit pas nous qui choisissons, et d'ailleurs je pense que les lecteurs de Marianne, c'est pareil, ils ont pas spécialement envie de savoir ce que moi je pense de tel sujet, ils ont envie que je fasse... comme je faisais dans Ce soir ou jamais, je rassemble des gens autour d'une table qui ont des opinions opposées et que je laisse mes téléspectateurs penser ce qu'ils veulent.
Voilà, donc désormais c'est vous qui allez veiller sur la manière par Marianne d'incarner le centrisme révolutionnaire
non,
de son
que
fondateur Jean-François Cannes.
Le centrisme révolutionnaire, c'était tout à fait génial. En 1997, 18, 19, c'était la fin des années 90, et évidemment, tout a changé, on s'en aperçoit pas toujours, et moi, au fond, dans mes éditos, c'est ça que je raconte, je dis jamais ce que je pense, mais j'écris un édito qui est toujours à la fin du journal, et qui est une façon de remettre toutes les choses dans leur contexte. Donc, de pas me prononcer, moi, je pense ceci, je pense cela, mais plutôt de remettre les choses dans un contexte. Bref, évidemment que, à l'époque, rien n'était pareil qu'aujourd'hui. Et on a tendance à l'oublier, c'est marrant. On a l'impression qu'au fond, on a basculé avec la guerre en Ukraine, que depuis, plus rien n'est pareil, mais qu'avant, au fond, c'était la même période de paix qui s'était écoulée depuis quasiment la chute du mur de Berlin. Non, il s'est passé plein de choses.
Mais on veut que tout soit pérenne parce qu'on est mortel.
Pas seulement, c'est parce qu'au fond, les Occidentaux ont cru, je crois, je l'ai raconté dans un édito récemment, ont cru vraiment à la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils ont cessé d'historiciser. Ouais. Et si on avait continué d'historiciser, eh bien on se serait rendu compte qu'il s'est passé énormément de choses et que quelqu'un qui aurait été cryogénisé en 1995
et qui
se réveillerait aujourd'hui
voilà.
30 ans plus tard,
en sortant,
il se dira ah bah tiens, c'est les mêmes voitures, c'est les mêmes vêtements, tout est pareil. Et puis, mais en fait, le monde est complètement différent. Complètement différent. Et donc tout ça pour dire que quand Jean-François Cannes décrète le centrisme révolutionnaire, c'est tout à fait opportun à l'époque où il le fait. Ce serait très différent aujourd'hui, évidemment.
Revenons sur cette fonction de directeur, Frédéric Taddeï. Oui. Bon, il suffit pas d'avoir raison pour être un bon patron. Faut être un meneur d'hommes. Vous êtes donc désormais un meneur d'hommes.
Moi, j'ai toujours et j'ai de toute façon quand je faisais Ce soir ou jamais, j'étais le patron aussi. Pour moi, être le patron, ça consiste à ne jamais faire de crise d'autorité. Ça ne consiste à ne jamais dire aux gens ce qu'ils doivent faire, leur interdire quoi que ce soit ou etc. C'est plutôt les challenger. Moi, j'aime beaucoup. En gros, ce serait « vas-y, épate-moi ». C'est un peu ça. Et ça me vient sûrement aussi de Jean-François Bizeau, de Jean-Pierre Elkabbach, qui m'a recruté pour Europe 1 en 2005. Et au fond, c'est l'impression que j'avais face à eux. Ils me disaient « vas-y, épate-moi ». Et Ardisson, quand on faisait ensemble Paris Dernière, il était mon producteur, tous les mardis, il venait voir le montage de Paris Dernière et il arrivait en me disant « j'espère que tu vas m'épater ». Et voilà, et moi je suis un peu pareil, c'est-à-dire que j'ai envie que les gens soient bien, qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire, mais qu'ils le fassent de façon à ce que ça corresponde au cap qu'on a fixé pour le journal, pour l'émission, pour la radio, pour la télévision, etc. etc.
Alors moi, j'ai envie de déchiffrer le personnage qui est indéchiffrable et qui est devant moi, devant ce micro. Frédéric Taddeï, en 2013, vous déclariez au journal Le Monde « Les opinions politiques sont des préjugés comme les autres. Je m'en suis débarrassé. » Bon, d'accord, pas d'opinion, ok. Mais j'aimerais savoir, il y a bien des convictions et des causes qui accélèrent un petit peu votre rythme cardiaque.
Le fait d'avoir de se débarrasser des opinions ne veut pas dire qu'on n'a pas de principe, qu'on n'a pas de valeur. Ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire qu'on se passe très bien. Si vous voulez, j'ai fait pendant 10 ans Ce Soir ou Jamais. C'est-à-dire que j'ai discuté pendant 10 ans avec les meilleurs sur tous les sujets. Quand il vous arrive ça, au fond, ce que vous pensez du sujet n'a aucune importance.
Mais vous voyez, là, c'est une manière encore de ne pas me répondre.
Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on se débarrasse d'autant plus facilement de ses opinions qu'on aime se confronter à celles des autres.
Mais on ne peut pas être qu'un réceptacle.
Non, on peut être le contradicteur d'ailleurs de celui qu'on interviewe. On peut lui dire, mais là, ça, vous y avez pensé, etc. Mais je veux dire par là que, allez, vous l'avez dit au début quand vous m'avez présenté, de façon très judicieuse, la culture, entre guillemets, pour moi, est un outil parfaitement adapté pour comprendre le monde. Pourquoi ? Parce que pour moi, la politique, c'est de la culture. Mmh. C'est un discours sur le réel, exactement comme la littérature, exactement comme le cinéma, exactement comme même l'économie. Les professeurs d'économie, c'est un discours sur le réel. Vous avez rarement des économistes qui deviennent milliardaires en jouant à la bourse. Vous voyez, ils y comprennent pas plus que nous. La bourse est un truc totalement irrationnel. En revanche, ils sont très bien pour nous expliquer ce qui s'est passé. Mais c'est un discours sur le réel. Tous ces discours, c'est de la culture pour moi. Voilà, les discours que l'on tient aujourd'hui sur la politique, sur l'économie, ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on tenait il y a 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Alors, encore moins il y a 2 siècles.
Plongeons dans cette culture gourmande, Frédéric Taddeï. Quand vous ne lisez pas pour le travail, quels sont les livres justement dont vous êtes gourmand ?
Ah ben, quand ça n'est pas du travail, je relis avec plaisir les classiques. Je peux relire Le Comte de Monte Cristo indéfiniment. Je peux.
Ah oui.
Oui, oui.
C'est amusant parce que j'avais capté dans une interview une réponse dans laquelle vous disiez que, en fait, vous n'aimez plus du tout aujourd'hui lire des romans. Vous préférez vraiment les essais.
Mais parce que les romans, c'est au fond, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en lisant des romans qu'on se fabrique, surtout quand on est jeune, ou en allant au cinéma de la même manière. Et aujourd'hui,
parce qu'on a besoin de l'imaginaire des
aujourd'hui,
autres.
Aujourd'hui, j'estime que je ne suis pas fini, je peux changer, puisque je me suis débarrassé de mes opinions, de mes préjugés, tout ça. Donc, je peux changer tout le temps. Mais je ne suis plus en recherche, comme je l'étais à 20 ans, par exemple, de ce que la vie allait me réserver. Ouais. Et là, j'avais besoin, pour m'aider, de Scott Fitzgerald, d'Hemingway, de Dostoïevski, de Stendhal, pour me dire qu'est-ce que la vie risque de me réserver. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, les essais continuent de m'intéresser parce que j'ai envie de comprendre mon époque, j'ai envie de comprendre le monde.
Celui, par exemple, que vous nous recommanderiez aujourd'hui, ce serait lequel ?
Il y en a plein, mais de cette année.
Oui.
C'est une question piège parce que je les ai forcément invités sur Europe 1, les auteurs, je veux dire, et je voudrais pas qu'il y en ait un qui soit fâché.
D'accord. Et puis vous en invitez tant que
il faut dire
à nos amis auditeurs, allez vous balader le plus souvent possible dans les librairies.
Et puis surtout écoutez mes émissions sur Europe 1.
Voilà.
Vous êtes sûr que vous aurez les mots.
Samedi, dimanche, de 9h à 10h. Alors justement, puisqu'on parle littérature, Frédéric Taddeï, vous avez cofondé avec votre ami Frédéric Beigbeder, ce qui est devenu en 1994 le prix de Flore, prix dont le jury a révélé Michel Houellebecq, Virginie Despentes. Selon vous, comment se porte la littérature aujourd'hui ?
Je vous ai dit, moi j'ai l'impression... J'ai l'impression que l'époque est passionnante, mais qu'il n'y a pas eu de grande rupture artistique depuis, on va dire, plus de 30 ans. Oui. Grosso modo, les jeunes d'aujourd'hui dansent sur, à peu près sur la même musique que leurs parents. Oui. Le rap est toujours là, il n'y a pas de nouvelle musique. Le cinéma, c'est pareil.
C'est la peur de l'avenir, ça.
Spéciaux. Alors, on peut dire que c'est le vieillissement de la population qui fait qu'il n'y a plus de rupture. On est un peu dans l'immobilisme. On peut dire aussi que le roman, pour rester sur la littérature, n'est peut-être plus le support le plus intéressant à notre époque. Il a fait son temps, peut-être, le roman. Il se développe vraiment au 19e siècle, les longs romans feuilletons, les Trois Mousquetaires.
Voilà, maintenant, les gens Dumas, préfèrent des images sur leur tablette en regardant Netflix.
Non, c'est pas ça. C'est... Non. Alors, évidemment, les gens lisent de moins en moins et c'est regrettable parce qu'on réfléchit beaucoup mieux en lisant. On apprend plus de choses, c'est plus palpitant, on développe beaucoup plus son intelligence en lisant un livre qu'en regardant Netflix, mais je suis pas du tout pour cracher sur les écrans, moi. Non, c'est pas seulement ça. Les gens lisent moins, c'est sûr, mais peut-être que simplement le roman en est arrivé au bout. Vous savez, il y a les arts meurent. J'adore le jazz. Enfin, le jazz est mort, il faut bien le reconnaître. J'ai beaucoup aimé le rock quand j'étais petit. Le rock est mort, faut arrêter. Bon, maintenant, il y a encore des disques de rock, mais il y a rien de nouveau. Il y a rien de nouveau dans le jazz, il y a rien de nouveau en musique classique. Il y a pas grand-chose de nouveau dans l'art contemporain, il n'y a pas grand-chose de nouveau en littérature, en roman en tout cas. Donc il y a le besoin d'inventer un nouveau support, parce qu'il y a toujours des grands écrivains, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est en écrivant des romans qui vont se révéler? Je ne suis pas certain.
Europe 1, 17h-18h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bon, Frédéric Taddeï, cette carte de presse que vous n'avez jamais demandée, en étant pourtant l'un de nos plus brillants agitateurs culturels depuis 30 ans, il va peut-être falloir s'en occuper maintenant que vous dirigez l'hebdomadaire Marianne.
Non, vous savez à quoi ça sert la carte de presse? À rentrer gratuitement dans les musées. Ça, pour ça, rien que pour ça, je pourrais la demander. Mais sinon, ça permet... quand vous êtes interrogé par la police et qu'il vous demande qui est votre source,
oui.
Vous sortez votre carte de presse et normalement, vous avez le droit de ne pas dire qui est votre source,
ah,
qui
génial,
vous a informé. Mais il faut dire qu'il paraît que c'est de moins en moins respecté par la police. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de demander une carte de presse, de toute façon, qui ne sera pas respectée le jour où on me demandera qui sont mes sources.
Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus pour l'avenir de votre fils, Diego, né en 99?
Moi, j'ai toujours dit à mon fils, la vie est belle quand on n'en a pas peur. Donc j'ai essayé, est-ce qu'il n'ait peur de rien?
Formidable.
Mais on a toujours peur de quelque chose. Moi, j'ai peur qu'il, comme tous les parents, j'ai peur qu'il ait pas de chance, j'ai peur qu'il soit pas heureux.
Oui, parce que c'est un paramètre affreusement important, la chance.
Bah oui, la chance est très important. Et alors maintenant, est-ce que j'ai peur du réchauffement climatique? Non, parce qu'on s'adaptera. Est-ce que j'ai peur de la Troisième Guerre mondiale? Non, parce que ça ne sert à rien d'en avoir peur. Moi, je pense qu'il faut avoir peur de rien.
Alors, puisque je parlais de votre fils, Diego, avoir un enfant à presque 40 ans, ça vous rajeunit un homme?
Oui, bien sûr. Je l'ai eu à 38 ans, mon fils. Oui, oui, bien sûr. C'est, de toute façon, ça... Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent vous rajeunir et aussi tellement qui peuvent vous vieillir.
L'amour.
Les unes peut-être se compensent les autres. Mais oui, tout simplement parce que ça vous replonge dans votre propre enfance. Moi, je suis sorti de mon enfance
tardivement.
Sans regret. Non, non, au contraire, je voulais en sortir le plus vite possible. Donc finalement, je me sentais autorisé, comme mes parents me laissaient à peu près faire ce que je voulais. Je me sentais autorisé assez jeune. Donc, mais j'avais envie d'être grand parce que ça ouvrait les possibilités. Quand vous vous retrouvez face à un enfant, en fait, vous savez que ça va pas durer très, très longtemps, qu'il va grandir vite, malheureusement. Et donc, vous en profitez un maximum. Et puis surtout, vous le préparez dans la mesure du possible à être grand.
Voilà.
Et qu'il puisse se passer de vous. C'est quelque
ouais,
tragique.
Mais c'est une sacrée mission.
Parce que
hein.
Je suis extrêmement attaché à mon fils. Je suis très fusionnel avec lui. Mais au fond, j'ai toujours tout fait pour qu'il puisse se passer de moi.
Voilà. Et fabriquer un homme épanoui, équilibré, autonome, sacrée mission. Alors, Frédéric Taddeï, votre luxe à vous, il paraît que ce sont les voyages. Des voyages plutôt courts, mais des destinations improbables. Par exemple, vous êtes capable de passer juste le week-end à Tirana, en Albanie.
Non, je ne suis pas allé encore. Alors, j'aimerais bien.
Ou alors, c'est parce que vous avez révélé un jour que vous aviez l'intention, prendre l'avion et à peine 48 heures, partir.
Il se trouve que ça, je l'ai expérimenté pendant de nombreuses années, puisque je faisais ça pour le magazine Numéro, qui est un magazine de mode. Oui. Et je faisais le tour du monde pour Numéro, tout en faisant Paris Dernière à l'époque.
Donc avec des voyages très très courts.
Donc je partais, ça s'appelait 48 heures A. Et je racontais mon voyage de 48 heures au bout du monde.
Alors,
et
vous êtes parti 48 heures à Tokyo, vous êtes parti 48 partout. Heures au Kenya.
Je suis parti 48 heures à Tahiti, j'avais emmené mon fils d'ailleurs. Il était tout petit, il était petit.
Mais dans quel état est-on pour, avec le jet lag, lorsqu'on reste, on a seulement 48 heures pour aller savourer et rentrer?
Non, le voyage n'était pas forcément inclus, mais c'était 48 heures à... Mais je me souviens, en ce qui concerne le voyage à Tahiti, avec mon fils, donc il durait 30 heures porte à porte. Parce que très souvent, on se dit, le voyage dure tant, le temps qu'on affiche à l'aéroport. Non, le voyage, il faut le calculer de porte à porte. Et là, vous apercevez que c'est beaucoup plus long qu'on ne croit. Enfin, ça n'excède jamais 30 heures, quasiment. Et bref, j'arrive à la fin, on arrive dans une petite île, à Taha, avec mon fils qui avait 3 ans, et il saute dans le Pacifique, bleuté, magnifique. Il revient vers moi, il me dit, c'est bon, on peut rentrer. Je me suis dit, il avait la même
place. Avait l'ADN TADI, voilà, c'est manifeste, extraordinaire, parce qu'effectivement, là, ce ne sont plus des séjours, ce sont des électrochocs.
Mais aujourd'hui, si j'arrêtais de travailler, si j'étais assez riche pour m'arrêter de travailler, je ne ferais plus que voyager, et là, et ça m'est arrivé de rester plus longtemps
l'espère pour vous.
Évidemment, mais jamais j'ai fait des voyages qui me permettraient de rester un mois ou deux dans un pays, par exemple. J'aimerais bien essayer un jour.
Mais voilà, mais si vous n'avez jamais en fait dépassé en séjour 3 semaines, ça va être compliqué de répondre à cette question. Dans la culture de quel pays pourriez-vous vous fondre avec bonheur ?
Le Brésil. Beaucoup pensé déjà. Je crois que je me sentirais très très bien à Rio de Janeiro.
Ouais. Revenons à votre métier de journaliste qui flirte inévitablement avec le show business, Frédéric Taddeï. Vous dites avoir le sentiment de ne pas faire du tout partie de ce milieu. Pour quelle raison ?
Mais moi, parce que je suis extérieur à tous les milieux, mais je me sens partout chez moi comme les rois et les voleurs. Je fréquente pas le milieu de la télé, mais ça n'empêche que j'en fais partie. Je ne fais pas partie du milieu du cinéma, mais je peux le fréquenter très facilement, comme le milieu littéraire. Mais je peux, de la même façon, je peux me retrouver avec des banquiers. Mon père était banquier en plus,
oui.
et ça me va très bien. J'aime bien fréquenter les clubs dont je ne suis pas membre.
Parfait. Bon, avoir réussi, ce qui est votre cas. Non. J'assume. Avoir réussi n'empêche pas d'avoir des regrets. Quels sont les vôtres ? Vous en avez ou pas ?
On a toujours des regrets, mais non, pas tellement. D'abord, j'ai aucune nostalgie, donc je peux difficilement avoir des regrets. Si j'en ai, je les cultive pas, donc je les oublie assez vite. Et j'en ai sûrement. Il m'est arrivé de faire des choix où je me suis dit après, si j'avais fait le choix inverse, il se serait peut-être passé ceci qui ne s'est pas produit. Mais franchement, je m'attarde pas du tout là-dessus. J'ai toujours eu l'impression qu'il y avait une espèce de fatalité qui m'emmenait d'un coin à un autre et qui se révélait plutôt...
Bienveillante. N'est-ce pas ? Croire en son étoile.
On peut appeler ça un ange gardien, on peut appeler ça une étoile, on peut appeler ça ce qu'on veut, mais je lui fais assez confiance. Et en fait, ça veut dire quoi ? C'est que quand j'espère un truc et que ce truc ne se produit pas, je me dis ça veut dire que ça m'aura apporté que des ennuis.
Voilà, ça s'appelle être philosophe. Alors, dans la ribambelle d'âge, mis en lumière dans vos fameux birthday books, petit livre en format poche qui paraît chez Grasset, on découvre que certaines personnalités ont accompli des choses aussi folles qu'inattendues à des âges qui n'étaient pas théoriquement en rapport avec ce qu'elles osaient entreprendre. Quels sont les exemples en fait qui vous ont le plus frappé en travaillant sur cette ingénieuse enquête ? Parce qu'il paraît que vous avez bossé pendant 5-6 ans pour mettre au point tout ça.
C'est vrai que ça me passionne parce que c'est tellement plein de surprises. Par exemple, Lee Harvey Oswald, quand il assassine le président Kennedy, ou en tout cas il est accusé de l'avoir assassiné, il a 24 ans. Gavrilo Princip qui assassine l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo et qui déclenche la Première Guerre mondiale, il a 19 ans.
Albert Cohen, 19 ans.
Qui publie Belle du Seigneur.
Alors lui, il est très âgé, je crois qu'il était septuagénaire.
73 ans. Le livre préféré, le roman préféré des jeunes filles de ma génération, partout où j'allais, il y avait toujours Belle du Seigneur, il avait 73 ans.
Et, incroyable.
Et Ingres, quand il signe le Bain turc, son tableau le plus célèbre, 82 ans. etc., etc. Je pourrais vous dire, Adolf Hitler arrive au pouvoir à quel âge ? Personne ne nous l'a jamais dit. Et pourtant, Adolf Hitler arrive au pouvoir à 43 ans.
C'est-à-dire quand il est élu chancelier par le peuple allemand.
Enfin, il est élu, il n'y a pas la majorité, mais il est nommé chancelier. Oui. Mais enfin, c'est des élections légales.
Ouais.
43 ans. C'est l'âge de John Kennedy quand il entre à la Maison-Blanche, qui est le plus jeune président des États-Unis, de toute l'histoire des États-Unis.
Ouais.
C'est l'âge de Tony Blair, qui est le plus jeune premier ministre depuis deux siècles. Et c'est l'âge de Justin Trudeau, dont tout le monde, quand il le voit arriver au pouvoir, dit que c'est un gamin.
Ouais.
Et bien, Trudeau, le gamin, à l'âge d'Hitler. Ça veut dire qu'Hitler est arrivé jeune au pouvoir, d'autant plus jeune qu'à l'époque, on y arrivait plus vieux. Et c'est une dimension qu'on a totalement, non pas même oubliée ou occultée, c'est qu'on n'y fait pas attention, c'est l'angle mort de l'histoire.
Voilà, mais ça veut dire que l'éducation nationale, maintenant, dans les bouquins d'histoire, devrait s'attacher à expliquer tout ça, plus à l'aune, justement,
oui,
de l'âge
en tout cas, parce que moi,
des acteurs.
Je ne fais qu'un travail, en fait, de recensement.
Oui.
Et j'aimerais beaucoup qu'on s'intéresse aux potentialités de l'âge. Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qu'on fait différemment à 20 ans, à 40 ans, à 60 ans. Qu'est-ce qui fait que le fait pour Nicolas Sarkozy d'être élu président de la République à 52 ans, c'est différent de François Mitterrand qui, lui, est élu à 64 ans.
Voilà, ou Macron à 38.
Ou Macron à 39, etc. etc. Et là, je prends que des choses comparables, mais on pourrait dire le Rouge et le Noir de Stendhal, il l'écrit, enfin, il le publie à 47 ans. C'est un livre de 47 ans. L'étranger de Camus, c'est 28 ans. C'est pas le même homme. Alors évidemment, c'est pas le même écrivain non plus, mais je veux dire pas là qu'à 28 ans, on n'est pas le même homme qu'à 47 ans.
Cher Frédéric, tout l'été, ici, sur Europe 1, eh bien, on va vous retrouver aux commandes de l'émission C'est arrivé à, qui s'inspire justement du concept des birthday books.
C'était déjà le cas l'été dernier. C'est l'émission qui remplace celle que j'anime normalement. C'est arrivé cette semaine, le samedi, et c'est arrivé demain, le dimanche. Là,
c'est arrivé à la même heure.
À la même heure, à
9h à 10h.
Et vous aviez été une de mes invitées l'été dernier, d'ailleurs, où on reprend la carrière d'une personnalité pendant toute l'émission, mais à la lumière des âges. Et ce que souvent les gens ont oublié. Ils se souviennent pas que ce qu'ils ont fait là, ils l'ont fait à tel âge. Et surtout quand on leur remet en... Évidemment, ce qui m'amuse, c'est de les confronter à ce que d'autres ont fait au même âge.
Bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Bon, c'était absolument passionnant. Ce qui l'est tout autant, c'est de plonger justement dans ces birthday books, et la collection commence à être très riche. Ils paraissent chez Grasset, en format poche. Et selon votre âge, eh bien voilà, vous emparez de l'un de ces petits bouquins, ce que vous allez découvrir, vraiment, est assez prodigieux et permet, voilà, d'ambitionner certaines choses
oui.
qu'on n'a peut-être pas encore tenté d'expérimenter.
Par exemple, à 15 ans, on peut se faire renvoyer du lycée comme Albert Einstein. Vous voyez, et ça n'empêche qu'on réussit
et
quand
voilà,
même après.
Et voilà, exactement. Cher Frédéric, merci infiniment pour cette balade d'une heure avec vous. Et donc, voilà, tout l'été, sur un dans C'est arrivé à, chaque samedi et dimanche à partir de 9h. Je vous embrasse très vite.
Moi aussi.
17h-18h, Isabelle Morizet sur Europe 1.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet nous donne rendez-vous des samedis prochains, toujours de 17h à 18h sur Europe 1. Elle recevra Élodie Poux. Élodie Poux qui est jurée de Masked Singer sur TF1. Puis elle nous parlera bien sûr de son spectacle Le Syndrome du Papillon et de sa tournée des Zéniths à partir du mois de novembre, à la rentrée donc. La Libre Antenne arrive. On va se replonger dans des témoignages entendus notamment cette semaine, juste après un extrait du nouvel album de Louis Chédid, album qui fait la part belle à la joie, à l'amour, à la vie. Voici Le Bonheur fait ma joie sur Europe 1.
Le bonheur fait ma joie. Le bonheur fait ma joie. Si vous sifflez dans la rue, vous passez pour un hurluberlu. Les gens vous regardent de travers. En pensant ce gars-là, il est pas clair. Pourtant ce qui nous illumine nous donne bien meilleure mine. C'est tout bête. C'est de mettre un peu de douceur dans nos âmes, des sourires sur nos larmes, lâcher sa tête. Le bonheur fait le cas. Vous et moi, qu'est-ce qu'on veut? Être heureux, un point c'est tout. Le bonheur fait le cas. Et s'il y en a que ça gêne, pas de problème, chacun ses goûts. Le bonheur fait le cas. Le bonheur, le bonheur, le bonheur. Le bonheur. Ça vient pas du cerveau, mais de ce muscle si tendre. C'est tu es un peu plus bas qui vous tire vers le haut quand il bat. Le bonheur fait mal. Car vous et moi, qu'est-ce qu'on veut? Être heureux, un point c'est tout. Le bonheur fait mal. Et si en acceptant que ça vous chante, venez avec nous.
Chédid avec un titre issu de son dernier album en date et qu'il chante sur scène dans le cadre de sa tournée. D'ailleurs, il nous donne rendez-vous à 7 le 25 juin, à la Tranche-sur-Mer le 5 août ou encore aux Folies Bergères à Paris le 11 octobre prochain, ce qui fera le bonheur et la joie des fans. Ce qui fait notre bonheur à nous sur Europe 1, c'est de pouvoir vous laisser un peu d'antenne au quotidien pour que vous puissiez vous confier auprès de Valérie Darmon ou Olivier Delacroix. Je parle bien évidemment de la Libre Antenne et vous le faites avec assiduité, j'ai envie de dire, en dernière partie de soirée. Ça se passe entre 22h45 et 1h, un peu plus tôt pour vendredi, samedi et dimanche, puisque la Libre Antenne démarre à 22h30. Et donc, je vous propose de découvrir quelques témoignages entendus notamment cette semaine.
Sur Europe 1, la Libre Antenne, Olivier Delacroix.
Bonsoir Gilles.
Bonsoir
Olivier. Gilles, on s'est parlé très rapidement hier soir et c'est ce pourquoi je voulais que nous terminions cette discussion, enfin plutôt que nous la commencions, parce que finalement on a été très vite hier soir et j'aimerais qu'on rentre dans le détail de ce qui vous est arrivé. En fait, avant vous aviez un appartement, un boulot, tout se passait bien.
Tout à fait, oui. J'ai passé une grande partie de ma vie donc en activité quand même.
Oui. Que faisiez-vous?
J'ai pris un appartement. Je suis quelqu'un de la bonne société. J'étais ouvrier en usine.
D'accord.
Avec quelques incidents qui ont survenu aussi, des déboires aussi, des choses qui se sont passées au sein de l'usine, un accident du travail. Des chamboulements au niveau de l'usine suite à la conjoncture économique qui a tourné, et puis jusqu'en 2014, donc j'ai quand même été depuis presque une vingtaine d'années dans cette société. Et puis donc après, il y a eu un plan social où j'ai été convié à quitter l'entreprise.
D'accord. Et donc, plan social, vous êtes convié, donc plus de boulot à ce moment-là.
Plus de boulot à ce moment-là, donc un accompagnement assez aléatoire de ce qui a été mis en place. Il n'y a pas eu vraiment de plan. Donc, ça s'est pas fait. Toute l'entreprise n'a pas fermé, hein, ça s'est fait en plusieurs temps. Il y a eu un premier wagon, donc j'étais dedans vu ma situation. Donc, je n'étais pas parmi les personnes susceptibles de pouvoir conserver ma place. Vis-à-vis d'autres personnes, mon anxiété et tout ça, donc puis des petites suite à cet accident du travail, des petites histoires que j'avais fait aussi à mon encadrant vis-à-vis de cet accident, donc je pense qu'il l'avait quand même encore au travers de la gorge, donc voilà. Mais bon, de toute façon, c'était voué à ce qu'il y ait du changement de toute manière, vu que l'activité qu'on avait n'était plus vraiment viable. Et tout ça, au niveau énergétique, au niveau du changement énergétique de sources d'énergie dans le pays, le restant du monde, quoi. Malgré que ça perdure encore aujourd'hui. Mais là, on a été rattrapé par le réveil des pays du soleil levant, qui ont pris le dessus, et puis comme beaucoup de choses. Donc en 2014, oui, j'ai perdu mon activité. Donc remise en question, nouveau. J'avais déjà fait au préalable, après l'accident de travail que j'ai eu en 2005, j'avais déjà fait une petite réorientation. J'étais retourné me former. J'étais retourné à l'université pour refaire un diplôme puisque j'étais plus apte à faire mon ancien travail, vraiment. Donc, dans le cadre d'une réorientation, j'aurais bien voulu accéder à une autre poste dans l'entreprise. Mais bon, ça s'est pas fait. Bon, voilà. Et puis, oui, donc là-dessus, quand vous avez passé un grand nombre de temps comme ça, quand même, dans l'entreprise, ça vous fait quelque chose. Vous ne sortez jamais parfaitement intact, même si vous y attendez. Et du coup, après, j'ai cette autre histoire qui m'est tombée dessus, oui.
Alors, justement...
Donc là, ça fait boule de neige, un enchaînement de...
Cette autre histoire, c'est quoi, en fait? Que vous est-il arrivé? C'est dans votre appartement que ça vous est arrivé, c'est ça?
Voilà, tout à fait. Donc, je m'étais installé dans un appartement qui date des anciennes habitations qui datent de... Donc, chez nous, dans la région Grand-Est, on avait l'exploitation minière.
Oui.
Et donc les statuts des mineurs avaient, dans le cadre de leur statut, ils avaient le droit à l'habitation, ils avaient le droit à pas mal de choses, et notamment suite à l'appel de population d'immigration pour faire ce travail-là, il était construit à l'époque, durant la sortie des Trente Glorieuses après-guerre, où le charbon, l'exploitation minière a fait le grand boom, il a été construit plein de structures chez nous, qui date de cette époque, mais ça, c'est des structures qui sont très anciennes ou qui ont été construites à va-vite, sans normes de construction vraiment réelles, comme aujourd'hui, maintenant, c'est à peu près imposé. Et donc, là-dessus, je me suis retrouvé, alors je connaissais déjà ces apparts dans le cadre de ma jeunesse, puisque mes grands-parents ont habité là-dedans, je savais à peu près ce qu'il advenait. Bon, toujours est-il que c'était mon première installation. Je me suis installé, j'ai eu cet appartement dans un état déplorable. Ils n'étaient pas suivis. Une partie était gérée en sous-location par l'instance municipale qui donnait ça dans le cadre de logement social aux personnes ayant besoin. Et donc j'ai eu cet appartement dans un état déplorable. Et je me suis investi, alors là, des un peu erreurs de jeunesse et puis mon côté touche à tout et refait tout, quoi. Donc je me suis amusé et j'ai refait cet appartement pratiquement entièrement au niveau des murs, des choses.
D'accord.
Que je n'avais même pas à faire.
Donc vous avez fait des travaux, dedans. Vous êtes investi dedans.
Ah oui, énormément des travaux. ça joue sur la santé tout ça, hein, quand vous n'êtes pas du métier, que vous faites des choses, donc, et puis je ne fais pas les choses à moitié, moi, donc dans l'état où il était, j'en ai jusqu'à refaire les murs presque. Là-dessus, ces appartements qui étaient initialement gérés par l'entreprise qui mettait à disposition des mineurs, donc les ouvrières du bassin de l'Oreille chez nous, quand l'exploitation a cessé dans les années fin 90-2000, quand ça a cessé définitivement, ces appartements, ils étaient toujours existants. Donc, ils ont été proposés aux mineurs, ils avaient la possibilité d'y accéder. Donc, il y avait des appartements du type HLM en immeuble, ou alors des maisons individuelles ou mitoyennes. Donc, ces personnes-là étaient prioritaires pour avoir ces appartements-là. Moyennant, derrière, il y avait toutes les personnes du privé ou autres qui avaient besoin de se loger. Donc, ces appartements ont retrouvé une nouvelle source d'emploi à travers des locations ou des mises à disposition de personnes tout à chacun. Et ces appartements-là, ça sert de, donc ça a changé de personnes qui les géraient, et c'est passé sous des statuts d'entité de bailleur social, comme on trouve au niveau national en France, des grosses structures qui gèrent ces ensembles-là. Donc c'est un gros business d'État. Et là-dessus, donc, ces appartements qui étaient dans un état déplorable, puisqu'ils approchaient les premiers datés des fins années 60-70, ils avaient besoin de renouveau et d'être remis aux normes. Donc il y a des choses qui ont été entreprises.
Oui.
Au point de vue rénovation, notamment le changement de chauffage, puisqu'à l'époque, quand il y avait encore le charbon, tout le monde, énormément de personnes, notamment les ayants droit, avaient droit à être chauffés avec ce qu'ils exploitaient, donc ils avaient le droit au charbon. Mais comme le charbon s'en cessait, donc tout ça s'est passé maintenant, c'est passé dans notre coupe. Donc c'était le début, après, quand le gaz a pris dessus, il y avait ça sur le gaz, ils nous ont mis les chaudières au gaz. Il y avait déjà partiellement des choses qui avaient été faites, des fenêtres qui avaient été changées, mais très mal posées sur d'anciennes structures métalliques, ça a été très mal fait, l'isolation était déplorable, et notamment l'insonorisation de ces immeubles, il n'y en a pas du tout, quoi. Donc vous avez l'impression, quand vous êtes chez vous, ben, vous vivez avec votre voisin pratiquement, quand il y a un peu de bruit, vous entendez tout, quoi.
D'accord. Donc, arrivons au point où vous avez été, ouais, donc en conflit avec votre bailleur, en fait.
Ouais, bon, ça a commencé dès le départ déjà, puisque je me trouvais avec des personnes pas vraiment respectueuses. C'est des immeubles, donc vous êtes amené à avoir souvent du changement de personnes dedans.
Oui.
Il y avait des personnes qui étaient en place bien avant moi, mais bon, ça, depuis le début, j'ai déjà eu. Il a fallu pas taper du poing sur la table. Mais bon, ça a commencé, je dirais bien 10 ans déjà, avant, pas de taper 10 ans avant qu'ils mettent cette procédure en place, quoi. J'avais déjà eu des petits soucis avec certaines personnes. Ça s'est pas arrangé après, du fait que, donc, quand je vous disais hier, je prenais beaucoup sur moi, j'étais pas beaucoup chez moi. Avec mon activité, je travaillais, je faisais beaucoup de choses, j'avais beaucoup d'activités, j'étais pas vraiment beaucoup chez moi, mis à part pour y passer la nuit et repartir travailler, et éventuellement les week-ends. Quand je me suis retrouvé en cessation d'activité, j'étais beaucoup plus souvent à appartement. Donc là, vous constatez beaucoup plus de choses.
Oui.
Et vous constatez ce qui empire et ce qui va de plus en plus mal, quoi. Quand je vous ai dit, ça a perduré, c'est les incivilités récurrentes partout, qui se multiplient de partout, des gens qui deviennent complètement irrespectueux, problèmes avec les animaux de compagnie, les chiens entre autres.
Oui.
Bon, ça, je l'ai connu, ça, je l'ai déjà connu dans ma jeunesse.
Quel type de problème avec les chiens?
Oh, ouais. les chiens qui gueulent dans les appartements, les propriétaires qui sont pas là, des chiens, des personnes qui prennent des chiens qui ont vocation à vivre dans les pâturages montagneux et qu'on enferme dans un 60 mètres carrés. Et toute la journée, il vit tout seul à la maison. Le chien, donc, le chien, il est en stress, il gueule, il hurle. Ces personnes-là travaillaient encore en poste décalé. Donc, à 4h du matin, ils sortent leur molosse. Alors, au début, il est petit, mais après, il prend une stature, le chien, à 4h, quand il sort dans le couloir, donc, il réveille tout l'immeuble. Donc, régulièrement réveillé en pleine nuit.
Oui.
Donc, ça a commencé des choses comme ça, parmi d'autres, quoi. Et ça a empiré, puisque, bien sûr, ils en ont repris un deuxième. Donc, il n'y en avait plus qu'un, un deuxième. Donc, ces mêmes personnes, c'est eux qui étaient la source du signalement auprès du bailleur sur mon comportement, après. Puisque là, je commençais à devenir plus agréable. Et donc, ces personnes-là se sont rapprochées du bailleur en disant que je leur posais problème. Carrément. Donc, moi, je m'ai... Oui, donc, je n'avais pas fait beaucoup de courriers au début. Ils m'ont mis en demeure de changer mon comportement. Les choses n'allaient pas dans le meilleur sens. Là, j'ai commencé à faire des signalements réguliers auprès des forces de l'ordre. Je les appelle régulièrement, mais c'est le genre de choses qu'ils n'aiment pas traiter. Ils ne se déplacent pas pour ça. Surtout qu'il faut constater la chose. Et donc, du coup, ils se sont mis tous ensemble et ils ont fait une procédure de groupe. Donc, ils ont mis ça en avant et le brailleur a mis ça en place auprès du tribunal et en demandant la résiliation de mon bail. Donc, ça faisait déjà presque plus de 10 ans que j'étais là-bas, 14, 15. Je m'étais beaucoup investi dans cet appartement, comme je vous l'ai dit. Je leur ai versé énormément de loyers que j'ai payés moi intégralement, parce que vu mon activité, j'étais pas couvert des aides au logement ou autre.
Je vous perds, faites attention, ne vous déplacez pas trop, je vous perds.
Ah, d'accord, ouais.
Vous n'avez pas pu continuer à payer votre loyer, c'est ça ?
Non, alors après, donc, suite à ce problème-là, donc, ça allait déjà pas très bien, et donc je me suis retrouvé en période d'inactivité, en arrêt maladie, qui perdurait, comme les problèmes s'amplifiaient et tout ça, et jusqu'au moment où derrière on m'a supprimé tout ça. Alors j'arrivais en fin de droit au niveau de ma couverture d'indemnité chômage, et donc je jonglais entre mes arrêts maladie et ce qui me restait en indemnité à FEDIC et puis les missions que j'ai pu faire entre temps, puisque j'avais repris quand même, cherché à reprendre les activités et puis à refaire autre chose, quoi. Sans trouver vraiment ma voie et puis de trouver quelque chose vers où je voulais aller. Et je vous dis, ça n'a pas cessé de s'amplifier au niveau de ces problèmes-là, quoi. Donc je me suis retrouvé avec des problèmes après un peu dépressifs, votre précédent interlocuteur qui parlait des problèmes dentaires, je me suis retrouvé pareil avec des gros soucis dentaires.
Oui.
J'ai dû aller aussi en urgence me faire soigner. Et puis du coup, la caisse d'assurance maladie a retrouvé de plus de me supprimer toutes mes indemnités qu'ils me versaient encore à l'époque. Alors que j'étais déjà sur une activité qui n'était pas plus vraiment à plein temps, j'étais plus que payé sur du temps partiel même, et ils m'ont coupé tout ça. Et les indemnités à CEDIC également. Donc je me suis retrouvé là, plus avoir de rentrée d'argent. Et là-dessus, les seules indemnités qu'on m'avait redonnées, on m'avait donné un petit peu quelque chose au niveau des aides au logement également. On m'a répondu, vous êtes en maladie, vous n'avez plus le droit à ces aides-là. Je dis, ah bon, c'est bien. Comme les problèmes, le bailleur, j'avais commencé à faire des courriers suite à l'instance qui était en cours. Donc là, j'avais été prendre conseil d'un avocat. Donc elle avait pris le dossier. Elle me disait, il faut faire des courriers, il faut qu'on ait des éléments à apporter, comme quoi vous n'êtes pas l'initiateur des problèmes. Donc j'ai commencé à faire des courriers de plus en plus salés au poivre envers le bailleur. Donc je lui transmettais ça. Le bailleur restait inactif. J'ai pas eu beaucoup de réponses derrière. J'ai sollicité à l'époque ma protection juridique, puisque j'avais une protection juridique que j'avais pris après mon licenciement. Puisque à l'époque, j'avais pris une cotisation syndicale, j'étais dans un parti de syndicat, mais bon, j'ai vu ce que ça m'a apporté au niveau au moment du plan de licenciement, donc j'ai dit...
Ça ne vous a rien apporté dit,
non, ça ne m'a rien apporté, en plus on m'a enfoncé même, je pense que les personnes qui étaient susceptibles normalement de devoir me soutenir, et ils m'ont enfoncé encore, mais bon, ça c'est encore autre chose, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est des choses qui se sont passées qu'on voit au sein des entreprises, c'est phénoménal. Donc à l'époque, on m'avait répondu, prends-toi plutôt une protection juridique, ça te sera plus utile que d'avoir affaire à ces gens-là, de toute manière. Donc j'avais souscrit, à l'époque, peu de temps après, j'avais souscrit cette protection juridique. Mais c'était quand même avant que la procédure soit mise en place. Donc je les avais sollicités quand j'ai reçu cette assignation, en leur disant, écoutez, voilà, j'ai ces problèmes-là. J'ai expliqué la chose. Derrière, on m'a répondu qu'ils n'interviendraient pas parce que mon contrat, on m'a demandé bien sûr de fournir déjà les documents que j'avais. L'avocat que j'avais pris, donc elle les a sollicités pour avoir une prise en charge de ses honoraires, ils ont refusé, mettant en avant comme quoi j'ai souscrit ce contrat bien après la connaissance des faits qui m'étaient reprochés. Notamment à cause d'un courrier qui datait d'un précédent locataire qui avait quitté l'immeuble et qui avait donné ça au bailleur. Et le bailleur avait sorti ça et il l'avait mis dans la procédure en disant « voilà, ça date déjà de là ». Cette personne, j'avais déposé plainte, j'ai jamais eu de suite sur les problèmes qu'elle m'avait fait subir, notamment des attaques à mes biens. Parce que là, j'avais un beau cas en dessous de chez moi, là. Et du coup, l'assureur campait sur cette position-là en disant « Si, on ne prendra pas en charge vos honoraires. » Donc l'avocat avait fait un courrier pour leur demander. Et derrière, ils sont restés sur leur point de vue. Suite à ça, je m'entretenais. Donc c'était une assurance aussi que j'avais dans le cadre de l'assurance de mes véhicules. Donc c'est une assurance protection juridique qu'on vous propose, mais ce n'est pas quelque chose de... mirobolant, quoi. Enfin, je l'ai compris après, quoi. En cas de procédure ou s'il y a quelque chose à mettre en place, les montants qu'ils vous proposent, ça recoupe exactement ce qu'on vous propose en aide juridictionnelle si vous y avez droit, quoi. Ils s'indexent dessus, quoi.
Ce qui fait que, en fait, vous ne pouviez pas avoir l'aide juridictionnelle.
Initialement, elle me disait que vis-à-vis de ma situation, au début, elle me disait que non, ce sera refusé, qu'elle me disait. Ça, c'était en première instance. J'y ai eu droit après, quand j'avais plus d'activité, ils m'ont tout supprimé. Donc, j'ai fait ma procédure d'appel. Après, l'avocat que j'ai eu en appel, lui a fait la demande et ça a été accepté. Donc là, j'ai pas bien compris la chose. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire-là? J'avais vu un autre avocat entre-temps, puisqu'elle avait rendu son tablier, puisque je lui mettais en avant que je ne savais pas ce qui se passait dans l'avancée de procédure, elle ne me donnait pas de nouvelles, je ne savais pas s'il y avait des audiences, j'ai jamais été convié à aucune audience, c'est tout elle qui gère. Sur une procédure civile, vous n'avez pas besoin de vous présenter, et c'est elle qui gérait la chose. Je ne sais pas ce qui se passait, donc quand je l'ai relancé, et puis quand je vous dis que j'ai été voir d'autres organismes, les organismes que vous avez parlé hier, d'aide aux victimes et tout ça,
oui.
Donc on m'avait dit, écoutez, il faut vous rapprocher de leur supérieur et qui gère ce genre de problème, quoi. Donc c'est chose que j'avais fait, donc ça ne lui avait pas plu. Donc Donc elle a décidé de rendre son tablier. Déjà là, j'ai pas bien compris pourquoi. Donc j'ai cherché à avoir un autre avocat entre-temps, mais bon, avant la dernière audience, il y avait déjà eu soi-disant pas mal d'audiences entre-temps où elle avait déposé des conclusions quand même, puisqu'elle nous a communiqué après. Je me suis présenté moi-même et là j'ai dit que écoutez, je demande un renvoi de nouveau d'audience pour pouvoir trouver un autre confrère. Et donc la juge n'a pas accepté en me disant qu'il y avait déjà eu beaucoup de séances et qu'elle allait délibérer sur ce qu'elle avait jusqu'à présent. Donc elle a délibéré avec les pièces qui étaient au dossier, puis ce qui avait été, et donc ça n'a pas été rendu en main des faveurs, ils ont prononcé la résiliation du bail. Là-dessus, donc, je pourrais encore rentrer dans une autre truc parce que je mettais en avant comme quoi j'avais déjà subi des problèmes suite à ces rénovations sur l'immeuble qu'avait entrepris le bailleur. J'avais eu des dégâts sur mon véhicule qui ont été causés par les entreprises qui avaient été missionnées pour faire ces travaux. Là, je suppute aussi quelque chose de volontairement provoqué ou je sais pas, mais bon. Toujours est-il que j'avais pas accepté qu'ils fassent les travaux chez moi. Vu qu'il mettait en avant comme quoi, et puis que je voulais partir de là, j'étais prêt à partir moi de mon propre chef, même en disant, j'avais dit à l'avocat, écoutez, il faut qu'on trouve un moyen. Je lui avais proposé de bloquer les loyers comme pour faire les choses dans les règles de l'art.